du sang, des larmes, de la sueur. C'est le quotidien des entrepreneurs qui se défoncent pour accomplir leur vision. Mais c'est aussi du plaisir. C'est en tout cas comme ça que Félix Valla voit les choses. Notre passionné qui a définitivement la bougeotte va à nouveau nous faire voyager dans son univers, mais côté coulisses. Il nous parle de l'importance d'être habité par quelque chose de plus grand que soi, des rencontres humaines qui changent la vie, des doutes et des galères. Mais c'est ça ou rien. On teste, on passe à l'action, on fonce. Vivre intensément, tout en ayant un impact le plus positif possible.
I got 99 problems, but changing the world ain't one.
C'est possible vu qu'ils l'ont fait. Je te parle de ces gens qui ont pris la bretelle de sortie, le chemin de traverse, qui ont réinventé les codes, qui ont bousculé les business models habituels pour se créer leur propre réalité.
Aller à contresens pour retrouver du sens.
Ils entreprennent, ils agissent, ils ont soif d'impact positif et de liberté. Je te présente les histoires extraordinaires de ces 99 Challengers qui, a priori, avaient tout d'ordinaire. Et si ça t'inspire et que tu veux faire comme eux, je n'ai qu'une chose à te dire, vas-y, fonce. Je suis Alison Picalosa et tu écoutes 99 Challengers, le podcast.
Alors, je voudrais parler un petit peu de ton parcours vraiment entrepreneur maintenant. Et moi, quand je t'entends, en fait, je sens vraiment quelqu'un de passionné, qui a vraiment une mission. Et à la rigueur, je me demande si réellement l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui, toi, te passionne ou c'est vraiment cette cause qui semble vraiment oui, plus grande que toi, qui est ton unique moteur, en fait.
Wow. Je vais peut-être chercher un canapé pour m'allonger, puis faire une petite psychanalyse. Mais bonne question. J'ai pas la réponse. J'ai pas l'impression de savoir la réponse. Alors c'est sûr que je trouve que ça a pas de sens d'être entrepreneur sans passion, parce que ça demande tellement de sacrifices, de réflexion et d'inspiration que le faire sans être passionné, j'ai l'impression que ça a pas trop sens. Ça me paraît en tout cas assez compliqué. En tout cas, je les vois liés, entrepreneuriat et passion. Je les vois très liés, indépendants l'un de l'autre. Moi personnellement, il y a aussi une certaine fierté peut-être mal placée où j'aime pas trop la hiérarchie. C'est un peu un blocage sur quand je suis un peu dans une cage ou enfermé ou avec des instructions. Donc ça, c'est important que je puisse faire un peu les choses comme je veux, même si je me plante. Je préfère les faire à ma sauce et me planter que les faire bien demander par quelqu'un d'autre. Donc du coup, oui, la passion, elle est obligatoire. La passion, elle doit aussi être utile, c'est-à-dire aller plus loin que son plaisir personnel ou le bout de son nez. Je crois qu'elle doit contribuer à sa aussi humble et petite échelle et une certaine amélioration du monde et de l'environnement dans lequel on vit. Pas forcément environnement nature, mais n'importe quel environnement social, humain, économique.
Et du coup, voilà, avec cet état d'esprit, comment est-ce qu'on fait pour être un bon gestionnaire? Parce que voilà, malgré tout, on a beau vouloir défendre des causes, et ben, ça reste avant tout du business.
Ouais.
Et voilà, toi, à la base, t'as construit Tosco, mais tu t'es dit, bon, bah, il faut quand même que l'argent rentre, donc je vais créer Cosafari. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça?
Voilà, tellement d'idées en même temps, ça se bouscule dans ma tête. Bon, déjà, je pense pas que je sois un bon gestionnaire, donc je pense que je suis la mauvaise personne, parce que je pense que mes qualités, ça va être la création, ça va être l'innovation, ça va être le fait d'oser faire quelque chose. Mais derrière la gestion, souvent, bah maintenant, je m'entoure de gens qui s'inspirent un petit peu de ce que je fais et dont c'est la qualité plutôt de gérer. Moi, je vais aller un peu au charbon et je vais un peu défricher. Si ça marche, tant mieux. Si c'est du potentiel, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. J'essaierai autre chose. Je pense qu'on peut avoir la meilleure idée du monde si on passe des années à fantasmer dessus et à en parler. Elle ne vaut rien tant que personne l'achète. Donc, faut faire attention aussi. Avec des fois, j'ai l'impression que il y a un qui est passé peut-être, un phénomène un peu des startups où les gens restent dans leur monde de on fera ci, on fera ça, on fera ça, qui sont encouragés, ce qui est très bien, des micro-entrepreneurs, c'est vraiment super, mais des fois on reste des années sur une idée et quand elle n'est pas concrétisée, du coup elle vaut rien quoi. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'il faut affronter son idée avec le terrain pour voir si elle vaut quelque chose. Voilà, faut le sacrifice de soi, c'est-à-dire que la transpiration, le sang, les larmes, ça va souvent avec la mise en place de projets. Et il faut pas hésiter à, si on est trop précieux sur ça, sur cette économie-là, je trouve que c'est un point négatif pour l'entrepreneuriat et pour le projet. pense pas être un bon gestionnaire. Par contre, pour rentabiliser ses rêves, en fait, pour essayer de vivre de ses rêves, c'est là où c'est pas si facile. Et c'est là où on frotte notre idée à la réalité du terrain. Et c'est là où on apprend beaucoup. Et je trouve que c'est ça le plus difficile. C'est que des fois, en la frottant au terrain, ton idéal ou ton rêve, il va se griffer, il va se faire chiffonner. Est-ce que tu vas arriver à le garder ou est-ce que, du coup, ça l'abîme trop? Certains disent que il y a rien de mieux que pour se ruiner une passion d'en faire un métier. Je sais pas si c'est vrai. Moi, je l'ai pas vécu comme ça. Puisque de toute façon, j'imagine pas un métier sans passion. Si on enlève nos heures de sommeil, je pense qu'on travaille plus que n'importe quelle activité dans la vie. Et a priori, si on n'a qu'une vie, autant la passer à un travail qui soit une passion personnelle et qui soit utile pour son environnement.
Mais cela dit, avec Tosco, tu le dis, t'as vraiment eu cette traversée du désert. T'as vraiment attendu plusieurs années avant que ça puisse se concrétiser. Comment t'as fait pour tenir le coup?
Bah en fait, il n'y a pas trop le choix, parce que si on tient pas le coup, plus rien n'a de sens. Donc c'est soit on tient le coup, soit on accepte que tout soit nul. Et ça, c'est quand même pas acceptable, je trouve. Et même si une bataille est perdue, c'est pas une raison pour ne pas la faire, parce qu'au moins on peut apprendre, au moins on peut se marrer, au moins on peut se sentir vivant. Alors après, oui, j'ai une certaine mentalité de volonté, peut-être. J'ai fait un long voyage à vélo, je sais qu'il y a des journées difficiles, je sais qu'il y a des phases. Je sais qu'il y a des journées plus faciles, qu'on peut avoir une semaine de pluie, mais qu'on peut avoir une journée de beau temps extraordinaire qui la rattrape carrément. Et je pense que si on n'est pas solide, c'est qu'on accepte que ce qu'on fait et que ce qu'on est n'ait pas beaucoup de sens, et c'est dommage.
Ouais. Mais tu penses que ça se travaille, le mindset? C'est quelque chose comme un muscle qu'il faut entraîner?
Ouais, je pense. Et je pense que c'est un choix. Je pense que ça se subit pas. Je pense que si on décide, toutes les cartes sont dans notre main pour tenir bon, que ce soit de finir un marathon, que ce soit de faire un voyage à vélo. Petit, j'aimais beaucoup la série de films qui s'appelle Rocky sur un boxeur. Très, très souvent surjoué, très souvent mal joué, très souvent très kitsch. Mais dont une leçon m'a toujours énormément marqué, c'est que dans la vie, c'est pas de taper le plus fort qui compte, c'est savoir encaisser, mais continuer à avancer. Et je trouve que c'est tellement vrai que la force, en fait, elle est là-dedans. Parce qu'on va tous être mis à rude épreuve partout et n'importe quoi. On sait que la vie, c'est parfois souvent difficile. Et soit on choisit de se plaindre, soit on choisit d'avancer. Et je trouve que la récompense d'avancer est vachement plus gratifiante et pas mieux.
Alors, t'as vraiment énormément de casquettes. Donc, c'est sûr qu'il y a peut-être une cause qui est ton moteur, mais qui est déclinée finalement en plein de projets. Comment tu fais pour gérer toutes ces casquettes au jour le jour?
Ben ouais, c'est vrai qu'on a un peu plusieurs dans ma tête. Je sais pas comment je fais à gérer. Je sais pas si je gère. Bah c'est vrai que peut-être des fois par rapport à la famille, je suis un peu absent dans ma tête parce que je pense à toutes ces casquettes-là, même si j'adore être un père. Je sais pas comment je fais. En fait, comme je passe d'une passion à d'une autre, c'est pas trop compliqué parce que j'ai envie de faire ces choses-là. Donc qu'on m'appelle pour aller chercher un mamba ou un cobra dans une maison, ou qu'on m'appelle pour signer un partenariat avec un réceptif tanzanien, ou qu'on m'appelle parce que, comme hier c'était le cas, parce qu'il faut délivrer un antibiotique pour une lionne qui s'est fait mordre à la tête, qui a développé un abcès, et c'est une lionne clé dans la repopulation de la population des lions du désert. En fait, tout ça m'éclate, donc je passe d'une à l'autre en souriant parce que c'est trop cool. Et je pense que l'entrepreneuriat aussi, si on se marre pas, si on trouve pas ça trop cool aussi au point de vue personnel, bah là ça devient plus compliqué et moins agréable.
Ouais, donc t'allies quand même je vais dire l'effort, la transpiration, le sang, les larmes, comme tu disais, vraiment avec l'amusement quand même.
Oui, avec un kiff personnel. Et parce que sinon, pour le coup, le prix à payer des sacrifices est probablement trop élevé. Et peut-être que ça répond à ta question du fait de la mentalité et de tenir bon. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'autre côté de la balance, ces récompenses-là, effectivement, là, tenir le coup, ça devient peut-être beaucoup plus difficile.
Et concrètement, est-ce que tu as des petits conseils pour gérer l'agenda? Quels sont tes petits tips à toi pour arriver à gérer tous ces projets en même temps, plus la vie de famille?
Vu que tout ça est difficile, il faut se faire plaisir. Voilà, ça c'est important. Il faut se faire plaisir, sinon on n'arrive pas à tout faire, on n'arrive pas à tout gérer. Faut que quand ce soit difficile, il faut se dire que c'est pas que un plaisir personnel, mais c'est aussi une amélioration de notre environnement. Il faut bien dormir, ça c'est tellement important. Ne jamais sous-estimer une bonne nuit de sommeil. Après une nuit de sommeil, on peut tellement bouffer le monde en une journée que c'est important de dormir, de faire plein de choses, mais de dormir. Sinon, on peut pas faire plein de choses. Et il faut pas se dire qu'il faut moins dormir pour en faire plus. Parce que je pense qu'au contraire, on en fait moins. Il faut partager son temps avec des gens bienveillants qui soutiennent ce que tu fais. Ça, c'est très important. Sinon, tu te bats aussi contre eux et du coup, t'as plus d'énergie pour le reste. Moi, j'ai dû changer de cercle sociaux pour cela. Parce que ça m'emmenait plus vers le bas que vers le haut. Et ça, c'est important de voir les énergies autour de toi, si elles vont dans ton sens ou pas.
Tu peux nous expliquer concrètement comment t'as fait ça?
Pour changer de cercle?
Ouais, c'est difficile, j'imagine.
Ouais, c'est difficile, mais en fait, ça se fait par soi-même, parce que ça devient plus possible, et parce que moi, ça s'est passé par le fait que je me suis fâché, donc ça s'est fait naturellement dans cette optique-là. Donc finalement, je l'ai plutôt subi qu'autre chose.
Ouais.
C'est-à-dire que soit je continuais à vivre dans ce cercle-là, qui m'emmenait plutôt vers le bas et qui était pas très bienveillant et qui me rendait pas heureux, et je disais rien. Soit je me fâchais et je le quittais. Donc voilà, à un moment donné, c'est la seconde option qui s'est passée. Et depuis, ça s'est remplacé par d'autres cercles plus positifs, plus constructifs, plus bienveillants. Et ça aide beaucoup quand les énergies vont dans le même sens. Mais il faut, encore une fois, là, le sacrifice, c'est qu'il faut être prêt à être seul pendant des fois une période assez longue.
Ouais, parce que ces nouvelles rencontres, comment tu les as faites?
Voilà, elles se font plus tard, naturellement, par le travail, par le terrain, par des choses inspirantes que tu as pu faire, qui intéressent d'autres gens. Il y a quelques jours, j'ai eu un rendez-vous avec une candidature spontanée pour Toast Code, d'une jeune fille. Toast Code, comme c'est un peu des fois complexe pour certaines personnes, il faut passer un peu de temps pour expliquer. C'est elle qui m'a reformulé en mieux que moi durant la rencontre. Et ça, je pense que c'est l'inspiration de certains projets que peuvent donner aux gens. Et ça peut se faire que par l'action, encore une fois. Moi, je crois beaucoup à l'action. Je crois pas beaucoup aux théories. Et ça, l'action provoque des choses. Moi, je le vois avec les films et documentaires animaliers auxquels je participe. C'est quelque chose que j'avais jamais prévu, mais c'est quelque chose qui je trouve est une sorte de karma, de retour positif de tous mes efforts que j'ai pu faire avant avec les acteurs clés de l'environnement. Je l'ai pas fait pour ça, mais aujourd'hui ça revient.
Ouais, donc c'est aussi une motivation de se dire parfois voilà, les choses sont dures. Il y a peut-être des moments dans la vie d'un entrepreneur où il doute, où il se demande pourquoi il fait les choses, et en réalité...
Ah, mais c'est même sûr.
Ouais.
Ah, c'est pas, même pas peut-être, c'est sûr. Et puis je pense que moi, en ce qui me concerne jusqu'à maintenant, ça représente la plupart du temps. Pour l'instant, la partie plaisir, elle est bien minoritaire par rapport à la longue partie galère. Après, moi, j'aime bien l'émission, j'aime bien être galère, mais pour l'instant, je me considère pas du tout comme arrivé à un certain état où je m'assois et je regarde et je dis maintenant je récolte les fruits de ce que j'ai semé.
Ouais, donc la clé, je pense, c'est aussi pouvoir apprécier les galères finalement.
Ah ouais, et voir s'y épanouir dans la galère.
Ouais. Et donc tu disais, quand on arrive à faire ça, parfois on récolte des choses totalement inattendues.
Ouais, tout à fait. Donc ce qui fait croire un petit peu au karma, et je pense que les actions positives en appellent d'autres. Voilà, quand on dégage des choses constructives, et ben plus ou moins tard, ça revient en positif aussi. Faut pas le faire pour ça, mais c'est quand même en général ce qui se passe.
Et donc, du coup, je voulais un petit peu revenir aux rencontres. Je pense qu'il y a des rencontres, toi, qui t'ont marqué. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ouais, tout à fait. Ça, c'est hyper important. C'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est à quel point des rencontres peuvent te faire prendre des chemins de vie, des carrières, des chemins de vie vraiment particuliers. Ces rencontres, elles doivent pas, je pense, être prévues. Je pense que tout ce qui est prévu, finalement, c'est jamais aussi bien que ce qui est spontané. Voilà. Moi, j'ai pas travaillé dans l'écologie, ni dans le tourisme d'ailleurs, ni dans plein de choses. Étudié, pardon. Et c'est vrai que tu rencontres des gens. Alors moi, j'ai rencontré un scientifique qui s'appelle Philippe Stander, qui étudie une population de lions du désert sur la côte des squelettes, qui a tout plaqué dans sa vie, qui s'est engagé corps et âme dans son projet, qui vit dans sa voiture, qui est un des top 5 biologistes mondiaux sur les félins, mais qui vit dans des conditions extrêmement précaires. Et lui, il m'a vraiment inspiré l'engagement et le fait que quand tu crois dans une chose et que tu peux faire une différence, faut le faire à tout prix. Alors tu vas me dire, c'est un discours de terroriste. Mais peut-être. Mais en tout cas, sans engager le bien-être des gens autour de toi, en tout cas, qui n'ont rien demandé. Mais effectivement, l'engagement total, c'est ça qui m'a fait prendre le courage de plaquer mon travail d'employé correctement payé, avec un peu de sécurité, alors que j'allais être jeune père. Ma compagne était enceinte et elle m'a encouragé d'ailleurs à plaquer mon salaire pour démarrer un entrepreneuriat sans aucune garantie financière, ce qui était quand même, je trouve, aussi une bonne force de caractère. Donc ça, c'était le côté engagement. Et puis ensuite, le côté de liaison entre l'homme et la nature, c'est un monsieur qui s'appelle Garth Owen Smith, qui a été le pionnier de ce qu'on appelle la gestion communautaire des ressources naturelles, où justement, c'est une approche qui ne dissocie pas l'homme, qui associe l'homme à la nature et qui pense que les propriétaires de la nature et les gérants doivent être ceux qui vivent avec, et pas du tout des ONG avec des grands bureaux à l'étranger ou des gens qui habitent dans des villes avec des 4x4 et des maisons climatisées, et que la guerre de la conservation se gagnera côte à côte avec les gens qui cohabitent avec l'environnement. Et ça, par rapport à Tosco, ça m'a sorti un petit peu du fantasme qu'on peut avoir en tant qu'Européens occidentaux sur l'Afrique, où il y a l'éléphant, il y a le lion, mais il n'y a pas forcément l'homme qui vit à côté, et l'homme peut être un problème, alors qu'en l'occurrence, l'homme est une solution.
Et donc, pour toi, c'est hyper important de t'entourer de mentors.
De gens inspirants. De gens inspirants, t'es pas obligé de faire comme eux, attention, il y a une différence, mais qui aussi, dans ces gens-là, ils peuvent te faire passer aussi par sous-entendu ce qui manque d'être fait, ce qu'eux ont pas pu faire, et que si ça t'intéresse, toi, tu pourrais faire aussi, tu te laisses un petit peu des pistes comme ça. C'est autour de feux de camp en brousse que, en les écoutant discuter, que je me suis rendu compte qu'ils se demandaient où le tourisme était dans la préservation de l'environnement. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée de créer Tosco aussi derrière. Donc tout à fait humblement, voilà, faut s'entourer de gens bienveillants et inspirants et de gens d'action en fait.
Ouais, et je me rends compte en fait au fil des discussions que souvent ce genre de personnes avec un parcours incroyable ont très envie de donner en retour et adore parler de ce qu'ils font et puis donner envie à d'autres. Et finalement, c'est ce qui t'a un peu arrivé et c'est peut-être aussi ce que t'as envie de faire aujourd'hui.
Oui, peut-être. Et je pense que les gens sont inspirés par l'action. Encore une fois, c'est des gens qui ont aussi beaucoup galéré, qui ont peut-être récolté qu'à la fin de leur vie quelque chose, une reconnaissance, des fois même après leur mort, mais qui ont passé des vies de galère. Qui ont passé des vies de galère, qui étaient juste portées par leurs croyances, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ça les a épanouis personnellement, mais qui n'ont pas eu une vie forcément facile du tout, au contraire même. Hein. On n'est pas de personnes qui sont pas battues, qui sont inspirants. Pour arriver à quelque chose, il faut galérer. Et ces gens-là, s'ils n'avaient pas galéré, ben ils seraient pas ce qu'ils sont devenus.
Et donc, je voulais un petit peu savoir, on ne sait jamais, si d'autres personnes ont envie de lancer un business en Afrique. Ça doit être quand même assez particulier. Donc, je voulais te demander quels sont les avantages, les inconvénients, les obstacles que tu as rencontrés pour arriver à monter quelque chose là-bas.
Ouais, alors je pense que déjà, il faut prévoir plusieurs années de silence et d'écoute. On peut avoir tous les beaux schémas et tous les beaux business models dans notre tête. S'ils viennent pas du pays même où t'es, je pense qu'ils ont pas beaucoup de sens, donc il faut prendre du temps pour ça. L'Afrique n'est pas un pays, donc j'essaie de pas de faire de généralité sur l'Afrique, parce qu'entre l'Algérie et le Congo, c'est aussi différent que la Suède et le Portugal. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en Namibie, ce qui est, j'ai énormément apprécié, et ce pourquoi aussi je me sens redevable envers le pays, c'est que même si t'as pas de diplôme, même si t'as pas le bras long, même sans faire la queue, tu peux accéder à des choses qui n'ont pas été faites avant, et que, de par ce fait, sont libres d'être faites. Par contre, faut aller chercher. Elles sont pas livrées à toi sur un plateau. Faut montrer que t'es en vie. Faut t'imposer. Faut se bouger. Mais si tu montres que t'as ta place, vu qu'il y a pas de protocole encore qui est en place justement, tu peux le faire. Et donc j'aime bien ce côté un petit peu western, cowboy où tout est à construire. En plus, on a suffisamment de recul maintenant depuis 20 ou 30 ans pour savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Donc on peut essayer déjà directement de mettre en place des choses qui ont prouvé leur efficacité et de pas reproduire les erreurs du passé. Donc ça, c'est vraiment chouette. On laisse beaucoup plus de place à la spontanéité et aux gens qui ont envie de faire quelque chose. On est plus dans une société de devoir que de droit. Avant de demander quel droit on a si on fait ça, on demande qu'est-ce qu'on doit faire avant d'avoir des droits. Et ça, c'est vachement plaisant comme environnement de travail.
Ouais, donc tu as l'air de nous dire que limite, c'est plus facile de faire quelque chose que par chez nous, enfin en Europe. Oui, bon, évidemment, l'Europe n'est pas un pays non plus, tu vois.
Mais, Oui, on... Oui, c'est pour moi c'est certain que c'est plus facile. Par contre, il y a moins de parachutes. Voilà. Il y a moins de sécurité. Faut être prêt que si on tombe, on peut se faire peut-être plus mal que si on tombe en Europe. Mais en même temps, on te laisse plus de liberté de faire. Donc après, c'est un choix en fonction des gens. C'est pas un jugement de bien ou de mal, hein, de valeur. Mais en tout cas, il y a des gens qui ça convient mieux que d'autres. Moi, c'est le cas.
Ok. Et du coup, quelles sont concrètement les difficultés que tu as rencontrées dans tout ton parcours en Namibie?
Les difficultés, c'est de pas réussir à s'entourer et d'être prêt à continuer, en étant plus ou moins seul. Ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, ben, c'est comprendre. Après, c'est une difficulté. C'est une bonne difficulté. C'est comprendre les systèmes, les écosystèmes, autant naturels que sociétals. Comprendre comment ça fonctionne, ça demande des années et des années. Voilà, moi, ça m'a pris 10 ans ou plus de 15 ans à comprendre certains mécanismes qui m'ont permis de commencer à construire. Donc, culturellement, c'est sûr que ça prend des années avant de comprendre comment ça marche. Ouais, c'est fatigant. C'est fatigant, surtout quand en plus tu construis une famille, de faire tout ça, de mener tout ça de front, d'où l'importance d'être bien accompagné. Et c'est mon cas, donc ça c'est chouette. C'est des difficultés, mais en fait c'est des difficultés plaisantes. C'est des difficultés où on apprend et où on se construit.
Ok, super. Par rapport à ton business model. Toi, tu as décidé de pas mettre tous tes œufs dans le même panier, vu que tu as d'une part ton organisation et d'une part vraiment ton business. Donc, quelle est ta vision là-dessus? Comment tu vois les choses par rapport à ça?
Oui, alors mon organisation, elle a aussi un business model, hein, sinon elle ne fonctionnerait pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre financer les programmes et les actions. Donc finalement, c'est assez peu différent d'une compagnie. La seule différence, c'est que ça a but non lucratif, donc il n'y a pas d'argent d'enrichissement personnel en dehors des salaires. Les ONG, les associations à but non lucratif doivent être gérées pour les entreprises. C'est-à-dire avec des financements qui permettent d'opérer les programmes, sinon ça fonctionne pas. Avoir une ONG juste sur une bonne idée, il faut aller chercher des sous. Je me suis rendu compte qu'en fait, on a tendance à confondre les ONG avec la charité, où on demande des contributions, on demande de l'argent, on demande des donations, un petit peu en tendant la main pour faire un monde meilleur. Or, je pense qu'il faut totalement sortir de ce concept-là. Ce qu'on propose, ce sont des services d'amélioration, en l'occurrence de l'environnement. Des services environnementaux, et que ces services-là, ils doivent se payer pour être financés, pour être opérés. Donc, c'est une relation bien plus égalitaire à même niveau. Si quelqu'un veut profiter de l'environnement et que la gestion de l'environnement a un coût, il faut le financer. Alors, jusqu'à aujourd'hui, peut-être pas le meilleur, mais c'est peut-être aussi le moins pire qu'on ait trouvé. On vit dans une société plutôt capitaliste. Donc, ça passe par les sous. Et je trouve que les ONG environnementales, c'est pas de la charité. Au contraire, c'est des services qu'elles rendent au monde. Et ça doit être payé à sa juste valeur et pas en mode à deux niveaux, en prenant quelqu'un un petit peu de haut et en faisant la charité.
Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport au financement de Tosco, concrètement, comment tu finances cette organisation?
Oui, tout à fait. C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque au début, je voulais que ce soit un mouvement du milieu touristique, essentiellement, que ce soit la voie du tourisme, que ce soit la participation du tourisme. Mais au fur et à mesure, en rencontrant des gens, en tapant à plusieurs portes, très important aussi d'aller rencontrer des gens, de pas rester sur ces cercles et sur ces acquis, et qu'il faut aller à la rencontre des gens, parce que ça peut faire des effets en cascade. C'est des battements d'ailes du papillon qui vont créer un ouragan, et ça, c'est super important de pas rester chez soi avec ses idées bien fixes. Enfin, c'était un aparté par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc moi, j'ai vraiment bénéficié, en tout cas. Le financement de Tosco, donc c'était basé essentiellement sur les réceptifs touristiques namibiens. Après, on a commencé à accueillir directement les individuels, les touristes qui voulaient participer. Ensuite, les agences de voyage françaises, en l'occurrence de par mon réseau The French Connection, ont aussi participé. Et maintenant, on se rend compte qu'on est quasiment à un tiers de d'autres ONG qui reconnaissent qu'on a un savoir-faire que eux n'ont pas, notamment par rapport à la partie touristique, et où en fait, on a pas mal de subventions et de fonds qui arrivent pour qu'on fasse des programmes que eux devaient faire, mais qui n'ont pas la capacité et que nous, on peut faire. Et ça, je pense que c'est chouette, parce que, en fait, Tosco, ça a répondu à un besoin plus ou moins inconscient, parce que j'ai répondu à aucune invitation. Ça, c'est le bon côté du pays un petit peu cow-boy, c'est-à-dire que j'ai fait mon truc avec mon idée, sans forcément être attendu au tournant. Et au final, on s'est rendu compte que ça a un sens, vu qu'on arrive à faire des choses que d'autres ONG n'arrivent pas, parce qu'on a un pied dans le milieu privé, touristique, et une crédibilité. Parce que moi, je viens de là, donc je sais comment ça pense, je sais comment ça réagit, je sais quel langage utiliser, ce qui n'est pas le cas des ONG qui, des fois, sont un peu déconnectées du secteur privé. Et donc, aujourd'hui, voilà, on travaille aussi pas mal avec des fonds de d'autres ONG. Je pense notamment à WWF. Je pense aussi à la Chambre namibienne de l'environnement, à d'autres ONG locales qui reconnaissent notre valeur ajoutée.
Et donc, c'est elles qui te contactent?
Alors, en Namibie, c'est suffisamment petit pour qu'on se connaisse tous assez vite quand quelque chose de nouveau arrive. Et à partir du moment où on travaille autour du même lion, on est amené à se parler et à voir que peut faire l'un pour l'autre.
Ok, super. Parce que je pense que c'est aussi important vu que, comme tu le disais, une organisation, ça se gère comme un business limite classique. Ouais. Il y a beaucoup de business models différents et finalement, il y a énormément de façons différentes de financer un projet. Et donc, comme les projets évoluent, certains apportent des projets qui se mettent pas dans des petites cases et qui se demandent, bah, tiens, comment je pourrais financer ça? Il n'y a pas une seule réponse. Mais donc, finalement, toi, dans ton cas, c'est quelque chose qui vient assez spontanément, toujours en réseautant.
Ouais. Je pense que c'est aussi en travaillant déjà dans les milieux qu'on va mieux identifier un manque qu'on pourrait combler. C'est très dur d'avoir une idée d'une association ou d'une entreprise en n'ayant pas d'expérience dans le milieu là, parce que on a des idées sur ce qu'on pense que sont les choses. En fait, quand t'es dedans, tu vois qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça. Par contre, il y a besoin d'autres choses. Donc, c'est important d'avoir déjà de l'expérience dans le milieu. Faut faire attention. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une connotation presque péjorative au business. Peut-être comme le mot éco, ça a été un peu galvaudé, mal utilisé et tout ça. Or, il peut très bien avoir des business vertueux qui ont un impact positif et non pas négatif. Après, l'impact zéro n'existe pas. Il faut juste voir comment ça peut se faire de manière plus intelligente et limiter l'impact négatif, améliorer l'impact positif et à partir de là, grandir à chaque fois un niveau plus loin. Ça prend du temps. Je pense qu'on ne changera pas les choses du jour au lendemain. Et tant qu'on marche vers la bonne direction, donc on fait partie de la solution plutôt que du problème. Moi, je trouve qu'on est bon, même si ce qu'on fait a parfois aussi un certain impact négatif.
Oui. Justement, je vais rebondir là-dessus. Comment, toi, tu mesures ton impact positif principalement, mais négatif, pourquoi pas?
Alors, négatif, je pense qu'il se mesure tout simplement en voyant l'impact de ce que tu fais derrière toi sur le terrain. Et positif, je dirais, dans les attitudes, les comportements et les regards des gens avec qui tu travailles, soit qui sont bénéficiaires de ton projet, soit des gens avec qui tu travailles sur ce projet-là. Et ça peut être aussi gratifiant et important qu'un salaire, par exemple. C'est quand tu vois dans les gens avec qui tu bosses, c'est super chouette. Ça te montre que tu es sur le bon chemin. Donc, je pense que je commence à réaliser l'importance du capital humain. Il se trouve qu'il y a l'homme sur Terre, voilà. On va pas l'éradiquer. Il y en a qui peuvent essayer, mais je pense que notre volonté de survie est quand même plus forte. Et je pense que l'homme peut être assez génial. Et je pense qu'il faut pas proposer seulement à tes collaborateurs un produit sur lequel travailler. En tout cas, que ton produit englobe du sens, du fun, de l'amusement et une partie de galère, mais une partie de galère qui est formatrice et qui rendront les gens plus forts aussi et plus expérimentés après. Et pour moi, en fait, le capital humain devient de plus en plus une clé parce que je me rends compte que tout seul, pendant mes 6-7 ans, j'ai pu faire quelques trucs, mais depuis que je m'entoure, je peux en faire 10 000 fois plus. C'est exponentiel. Et eux-mêmes, après, vont aussi inspirer d'autres gens. Et après, ça a pas de fin. Donc c'est chouette.
Ouais, donc, en fait, vraiment donner l'envie de s'engager pour ce genre de cause, pour toi, ça a un effet boule de neige bien plus bénéfique. Donc, ouais. le qualitatif, pour toi, est plus important que le quantitatif.
Ouais. Tout à fait, c'est pas question de quantité, c'est question de qualité. Ouais, tout à fait.
Mais justement, on va peut-être parler des partenariats. Alors, tu disais, voilà, il faut observer parce que quand on arrive dans un nouveau milieu, la culture est différente. Comment ça se passe avec tous tes partenaires, notamment, je pense à, enfin, oui, bien sûr, Tosco, mais également Eco Safari. Donc, tu dois travailler avec d'autres prestataires. Comment ça se passe?
Eh ben, écoute, ça se passe qu'il faut se présenter, ça se passe qu'il faut expliquer qui on est, d'où on vient, ce qu'on veut faire, et partager sa vision. Et ça, je trouve que déjà, ce qu'on fait ça facilite énormément les rapports humains, parce que tu comprends un peu les gens d'où ils viennent et pourquoi ils pensent comme ils pensent. Au sein d'Eco Safari, ça va être le lien entre nous, on est un peu l'intermédiaire finalement entre les logements, voire même les services environnementaux et les voyageurs. Et je pense qu'il faut se mettre à la place des uns et des autres pour avoir les partenariats les plus solides, ce qui est pas forcément évident à faire. Mais je crois beaucoup aux rencontres. Dans ce cas-là, il faut pas échanger que digitalement, en tout cas.
Et est-ce qu'ils évoluent, les partenariats, avec le temps, à force de travailler avec certains partenaires? Est-ce qu'ils sont aussi sensibilisés, à ce que tu défends? Et dans ce cadre-là, ils adaptent leurs services, ou comment ça se passe?
Oui, mais c'est aussi réciproque. Des fois, c'est eux qui m'influencent et qui me font adapter, qui font encore mieux que moi sur certains champs. Après, je trouve que ce qui est chouette, c'est que les gens avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivé, maintenant en 2004, ça va faire plus de 15 ans où il y avait beaucoup de gens qui démarraient leur activité. Aujourd'hui, on a un peu l'impression d'avoir fait la guerre ensemble, où on démarrait vraiment avec pas grand-chose dans un garage mal éclairé et où qu'on soit aujourd'hui, il y a une certaine proximité qui est issue de cette période-là. Et après, voilà, non, les relations évoluent. Mais toujours généralement dans le même sens.
Inutile de le rappeler, l'entrepreneuriat, c'est complexe. Et plus encore quand on a des équipes à gérer. Bien se connaître et savoir quel type de chef d'entreprise on veut être, c'est essentiel. L'idéal, c'est de pouvoir rester dans sa zone de génie, faire ce que l'on fait de mieux et arriver à déléguer le reste. Voici comment Félix s'y prend.
Je vais avoir une idée, je vais réaliser l'idée, et en fait, dès qu'elle est réalisée et qu'elle fonctionne plus ou moins, j'ai envie de faire autre chose. Et donc là, je vais travailler avec des gens qui aiment cette idée-là, qui n'auraient pas été forcément en position de la créer, de la voir et de la réaliser, mais qui veulent bien en être et qui vont reprendre la main sur continuer à essayer de la faire marcher toute seule. Mais moi, je vais me lasser assez vite, une fois que mon idée marchote, que j'ai à peu près compris comment ça se passait, j'aurais pas la passion ni la patience d'aller dans le détail. Et là, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est vrai que généralement, ça, chaque étape me prend environ 2 ou 3 ans. Entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je vais donner le bébé à quelqu'un qui a envie de s'en occuper, ça va prendre au moins 3 ans, mais rarement plus. Et donc, j'essaye parce que c'est en train de se faire. Je suis en train de voir mes bébés avec d'autres personnes. Marcher tout seul ou marcher avec d'autres personnes, et ça fait assez bizarre, et pour l'instant j'ai pas assez de recul et d'expérience pour voir si ça va marcher ou aller encore plus loin. En tout cas, pour l'instant, la prise en main s'est faite, et maintenant où ça va aller, moi je suis assez confiant parce que je trouve que voilà, le capital humain des gens avec qui je suis est assez incroyable, mais j'en sais rien. Ça va se casser la figure, peut-être qu'il y avait des trucs qui sont que dans ma tête, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient pas viables, peut-être. Et peut-être c'est pas grave, d'ailleurs, c'était bien de le faire pour le savoir. Mais après, moi, faut que je fasse autre chose. Sinon, je m'ennuie.
Donc, en fait, si je comprends bien, ton défi, c'est vraiment de trouver des bons managers pour que toi, tu puisses t'occuper de la partie créative, de continuer ton chemin sur ta vision, en fait.
C'est vrai. Ouais, moi, je pense que mes qualités, elles sont là. J'ai plein de défauts. J'ai plus que des qualités. Mais en tout cas, le peu de qualités que j'ai, ça va être ça. Et du coup, faut que je m'entoure avec des gens derrière qui peuvent récupérer le truc. Et voilà, encore une fois, qui n'auraient pas été en position de le faire, mais qui sont en meilleure position que moi pour le gérer.
Ok. On a parlé déjà d'énormément de choses, mais si tu devais donner des conseils à des entrepreneurs, futurs entrepreneurs, qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que ce serait ?
Du sang, des larmes, de la sueur.
Ça, je pense qu'on a bien compris.
Aussi, j'ai bien compris. Un intérêt personnel et un intérêt pas personnel, les deux. Je pense que l'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Si on pense que à soi, ça marche pas. Si on pense que aux autres, ça marche pas non plus. En fait, j'aime pas me donner dans d'être sur la chaise du donneur de leçons ou de conseils, parce que chacun a ses expériences, son contexte, son histoire. Mais oui, en tout cas, c'est que des équilibres. C'est-à-dire que tu vas avoir l'équilibre entre personnel et pas personnel. L'équilibre entre le fait qu'il faut s'éclater, mais qu'il faut suer et pleurer. L'équilibre aussi qu'il faut avoir une volonté de faire et tenir très très bon dans ses convictions, mais que si ton idée, elle est que dans ta tête et personne va l'acheter, elle vaut rien, faut la changer.
Pourtant, t'as dû t'accrocher, toi.
Oui, oui. Peut-être qu'au bout de 15 ans, si ça avait toujours pas marché, je me serais mis en question. Alors voilà, moi, 6-7 ans, j'étais capable de faire j'étais capable de faire un marathon de 6-7 ans. Peut-être que si ça avait été 15 ans, peut-être que je l'aurais pas été. Tu vois, je sais pas.
Ouais, mais c'est bien de préciser que c'est pas après 15 jours qu'il faut se dire que sa petite idée, c'est rien que dans sa tête.
Oui, oui, tout à fait. Ouais, voilà, ça peut être 5 ans. Hein. Et après, ouais. Et il faut l'adapter en fonction, quand tu la frottes au terrain, faut adapter en fonction de ça. Mais les convictions, c'est tellement ça qui vont te permettre d'aller plus loin.
Par rapport à Eco Safari, comment tu trouves tes clients ?
Alors, avec Eco Safari, d'une part, je m'adresse donc à l'industrie du film, où là, en fait, c'est eux qui te trouvent, parce que ça marche beaucoup par réseau, entre eux, entre les différentes boîtes de production, ils vont se conseiller, ils ont un carnet noir et un carnet d'or des fixeurs, des gens comme moi sur place qui vont organiser leur film. Donc, c'est plus eux qui te trouvent, tu peux faire tout le marketing que tu veux, si c'est pas du bouche à oreille entre les boîtes de prod, ton nom ne sera pas là. Par contre, quand tu fais du bon boulot, tu peux être sûr qu'ils vont partager. Ensuite, comme cible, on a les agences de voyage traditionnelles qui vivent un temps assez dur avec l'émergence des plateformes de voyage sur Internet. Donc là, ça va être des voyages qui vont être très qualitatifs, très sur mesure. Je travaille avec pas plus de 4-5 agences. Il y a une nouvelle agence qui s'appelle Double Sens, qui fait des voyages aussi solidaires, participatifs, avec qui je m'entends assez bien. Et puis, la majorité, ça va être les clients directs, soit qui vont te trouver sur Internet, sur les forums ou sur ton site, quand tu as un bon site bien référencé, soit par bouche à oreille, les amis d'amis qui ont voyagé avec toi et qui veulent aussi le faire. Il y a aussi l'émergence des plateformes de voyage multidestination sur Internet, telles qu'Evaneos, Planet Ride et Eco-Voyageurs. Donc voilà, moi j'ai un petit peu tout ça, mais la majorité, c'est le direct et les plateformes. Les films et les gens de voyage classiques, c'est plutôt minoritaire. Mais quand tu vends des choses qui sont assez chères et qui sont vraiment des expériences, c'est clair que le bouche à oreille, ça compte énormément. Je connais des confrères qui travaillent dans le tourisme, qui ne travaillent que avec le bouche à oreille. Ils font un site internet basique, mais qui n'ont que des clients, des gens qui reviennent, des amis d'avis. Voilà, c'est un milieu où on travaille beaucoup comme ça.
C'est fou. Je trouve ça étonnant.
Ouais, mais en fait, on vend des secrets. On partage des trésors, donc ça se fait de manière plutôt confidentielle.
C'est beau ça. J'aime bien l'idée. Bah oui, c'est vrai. Après tout, c'est vrai que voilà, votre objectif, c'est absolument pas le tourisme de masse non plus. Donc.
C'est ça. On propose des expériences autour du feu dans le désert, à écouter le rugissement des lions et ça se vend mal froidement, digitalement. C'est quelque chose dont il faut qu'on te parle ou il faut que tu connaisses quelqu'un qui l'a expérimenté pour avoir envie de le faire. Et y avoir envie de l'acheter, surtout quand ça coûte cher.
Alors, pour l'instant, tu es principalement sur le marché francophone. Est-ce que tu envisages de développer plus le marché anglophone ou autre?
Oui, alors, le grand plan derrière tous ces plans à court et moyen terme, c'est qu'effectivement, ma plateforme ecosafari.com, qui s'adresse sur le francophone pour l'instant, parce qu'on fait aussi avec les moyens du bord et on n'a pas les moyens d'attaquer le marché international. Par contre, je suis convaincu qu'il y a un potentiel international à la marque EcoSafari et à la plateforme ecosafari.com pour proposer des voyages à tous les anglophones. Et là, pour le coup, mon plan à long terme, c'est qu'une fois que la plateforme francophone fonctionne, avec une quinzaine de destinations, avec plusieurs commerciaux, ce serait aller de démarcher des investisseurs qui croiraient dans la plateforme à long terme anglophone et qui seraient prêts à la passer au niveau supérieur, mais là, ça demande pas mal de financement parce qu'il faut changer tout le site, tous les codes des sites, tous les référencements, s'attaquer à Google international, où c'est bien plus difficile que le Google francophone, parce que ça concerne plus de monde, bien sûr. Et là, tu passes du quadruple. Voilà, c'est que tu multiplies par 20 ou par 30 ton marché, ouais. Mais pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'attaquer à ce marché-là, mais j'ai assez confiance que dans le futur, ça pourrait être le cas.
D'autres ambitions?
Ouais. Quand j'étais jeune homme, j'ai fait un voyage en triplette, donc en vélo à trois places, avec des amis à moi, Guillaume et Benjamin. On allait jusqu'à Dakar et j'ai trouvé en Belgique un constructeur de vélo qui a acheté un cadre de triplette au Brésil, qui l'a monté en Belgique et que je lui ai acheté et que je suis en train d'essayer de faire revenir en Namibie. Donc ça fait un sacré triangle, Brésil, Belgique, Namibie. Parce que quand j'étais sur la triplette, quand j'avais 20 ans, j'ai toujours rêvé de faire pareil avec mes enfants. Et donc, du coup, je suis en train de ramener la triplette en Namibie et j'espère bien pouvoir faire un petit voyage avec mes filles dessus. Ça, c'est notre ambition.
Et t'as déjà une idée du parcours?
On va aller à la plage. Sinon, elles voudront pas pédaler. C'est obligé.
Il faut la carotte.
Voilà, il faut la carotte. Et tu vois, peut-être t'entendais plutôt ambition professionnelle, mais je crois que les ambitions professionnelles, ça doit être les mêmes que les ambitions personnelles. Tout doit être des projets qui font rêver, qu'on en vive financièrement ou qu'on en vive heureusement. en matière d'heureusité ou pas, tout n'est que projet et ambition.
Mais je pense aussi, quand on devient entrepreneur et qu'on a ce mindset, finalement, tout s'entremêle et on voit un peu tout comme des opportunités qui peuvent servir finalement ces intérêts qui sont et personnels et professionnels.
À construire et à s'éclater et à construire. Et à, tu vois, dans la famille, tu construis une famille, ça fait des nuits blanches, c'est compliqué, c'est dur, ça demande des sacrifices, mais au final, en termes de partage d'amour, de don d'amour et de réception d'amour, ça rend heureux aussi. Et en fait, c'est pareil pour tout, pour les boîtes, tu vas transpirer, mais elles vont te permettre d'en vivre, tu vas construire quelque chose, et en fait, tu fais que construire, mais autant choisir les choses que tu construis qui vont te rendre heureux et qui vont améliorer le monde, parce que en termes d'amour, c'est l'amour qui rend les gens heureux. Et pour l'entreprise, c'est pareil. Donc, il faut voir ce qui nous rend heureux, nous, ce qui rend heureux les autres, et il faut se lancer là-dedans. Ouais, il faut choisir ses projets, ses batailles, dans ce sens-là.
Bah, je partage exactement ton point de vue.
Bah, c'est cool. Tant mieux. Bah, alors, on se recroisera professionnellement, sûrement, peut-être un jour.
Bah, j'espère.
Parce qu'aussi, je trouve que le monde est d'autant plus petit pour les gens qui travaillent avec les mêmes états d'esprit.
Ouais, tout à fait. Et voilà, et je pense que quand on arrive à trouver des gens sur la même fréquence, c'est comme un nouveau monde qui s'ouvre.
Ouais.
Et on attire à un moment les personnes qui nous ressemblent et avec qui on peut développer des projets, je pense.
Ouais, ouais. Et il faut pas demander trop tout de suite aussi, voilà. Faut être prêt pendant quelques temps à travailler pour avoir de l'expérience, pas forcément gratuitement, mais en tout cas sans grande attente, quoi. Pour les sabots, au début, c'est bien pour être crédible aussi.
Et de nouveau, on en revient à notre histoire de karma.
Ouais, exactement.
Super. Eh bien, merci beaucoup, Félix, pour cette interview super intéressante, passionnante.
Ben, merci, Alison. Je pense qu'elle aurait été beaucoup moins sans toi et ton but.
Ah, merci.
c'est interactif parce que voilà, comme tu l'as dit, c'est quand tu partages des choses avec des gens sur la même longueur d'onde que ça devient super intéressant. Sinon, tu parles à un mur et ça l'est moins.
Ben, super. Ah bah à la prochaine alors.
Et ben du coup à la prochaine, j'en suis convaincu et surtout je souhaite bien du courage et de l'amusement à tous les gens qui nous ont écoutés.
OK, merci beaucoup.
Salut.
Petite update car comme je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent, du temps s'est écoulé entre l'enregistrement et la sortie de ce podcast. Comme l'atteste la photo qu'il m'a envoyée de lui et ses filles sur leur triplette. Félix continue de concrétiser ses idées les unes après les autres, toujours avec le même entrain. Si tu veux en savoir plus sur le fameux voyage initial en triplette qu'il mentionne, je te mets le lien vers la vidéo en description, ainsi que d'autres infos utiles. Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à soutenir 99 Challengers en diffusant le podcast autour de toi, en laissant des commentaires ainsi qu'une pluie d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à me suggérer des invités. Pour suivre l'actualité de 99 Challengers, rendez-vous sur le compte Instagram, Facebook et sur le site internet 99challengers.com. À bientôt.